qui me suis retrouvée en effet sur le marché du travail. Et comme tu dis, comme je dis souvent d'ailleurs, quand je me présente, bah là on te demande de choisir la boîte du CAC 40 que tu veux intégrer, puisque c'est la voie vers laquelle on te pousse.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia 206 et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode avec Pauline Trekesser, qui est donc ma troisième Pauline du podcast, voilà. Pauline est multicasquette, elle est la CFO, Chief Freelance Officer, du collectif COSM, qui est le premier collectif de freelance structuré à Bordeaux. Mais avant de devenir entrepreneur, Pauline a aussi cherché ce qui pourrait lui correspondre, passant donc de salarié à freelance ou encore bénévole. En 2017, elle crée le blog Vélo Boulot Bordeaux, qui va lancer son envie d'entrepreneuriat à temps plein. Dans cet épisode, on a parlé un peu de boulot, mais bien sûr, principalement de voyage. On a donc parlé de son enfance en Bretagne, de son premier grand voyage en Australie, puis au Pérou, de la sortie de l'école et de la pression pour intégrer un grand groupe, d'être freelance aujourd'hui en 2020, et de la création de son collectif de freelance structuré, COSM. Petite précision, cet épisode a été enregistré à distance et j'ai eu, non pas un, mais plusieurs petits soucis de son, donc je m'en excuse vraiment par avance et j'espère que cela ne gênera pas votre écoute. Bonne écoute! Bonjour Pauline.
Bonjour Anastasia.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager ton parcours sur De Vraie Vie. J'ai découvert ton parcours lors d'un événement sur Bordeaux qui s'appelle le She Means Business. Vraiment, j'ai été hyper inspirée. Je me suis dit que du coup, ce serait hyper intéressant de t'avoir dans le podcast puisqu'on va voir qu'il y a beaucoup de liens entre voyage et tes choix professionnels. Pauline, tu es aujourd'hui la fondatrice du collectif COSM, qui est le premier collectif de freelance structuré. T'es aussi fondatrice du blog Vélo Boulot Bordeaux. Et tu es toi-même freelance. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de casquettes. Avant donc de parler de ton présent, on va revenir un tout petit peu en arrière. Et donc là, on est en 2000, tu vois, à peu près 12 ans. Donc normalement, si mes calculs sont bons. À ce moment-là, comment est-ce que tu t'imagines quand tu seras adulte?
Wow.
T'imagines comment?
C'est une super bonne question. Alors celle-là, on ne l'avait jamais posée, j'avoue. J'ai jamais eu une vocation professionnelle en tant que telle. Je me suis jamais dit, toute petite, je pense que j'ai jamais dit, je vais être pompier, je vais être médecin, infirmière ou autre. J'ai jamais eu cette vocation professionnelle, en tout cas dans mes veines. À part que je crois que j'ai voulu quand même être chanteuse un peu de mes 0 à 10 ans. Mais globalement, j'ai jamais eu une vocation professionnelle prédéfinie. Par contre, j'ai eu un modèle familial qui m'a clairement donné la voie. Et du coup, mes parents sont entrepreneurs tous les deux. Donc, ils ont été ensemble pendant très longtemps et ma maman maintenant a monté aussi son entreprise solo. Donc, je pense que tout bêtement, l'entrepreneuriat était quand même un art de vivre, une manière de vivre chez moi. En fait, j'ai toujours connu, vu mes parents dans ce bain d'entrepreneuriat avec des gros hauts, des gros downs. Je me souviens de ces moments parfois d'euphorie quand il y avait des bonnes nouvelles niveau business, et je me souviens de ces moments de down quand il fallait serrer la ceinture parce que c'était un mois galère.
Ah ouais, donc t'as été baignée dedans en fait des petites...
Voilà, donc tu vois, je dirais pas que j'ai en tout cas une vocation professionnelle préétablie, mais je dirais quand même que l'entrepreneuriat me tendait bien les bras parce que je pense que j'ai eu ce goût entrepreneurial et ce goût du risque en quelque sorte très rapidement baigné avec mes parents quand j'étais petite. Donc je pense que 12 ans, clairement, je voulais être chanteuse, et d'ailleurs je voulais être Anastasia. Super drôle.
Ah et ben écoute, comme quoi
I'm out of love, set me free, voilà. Et puis, c'était moi, je vois ça.
Ben, évidemment.
Et voilà, évidemment. Il y a pas mal de copains qui se sont souvent moqués de moi avec ça, notamment mon copain aussi. Voilà, donc je voulais être Anastasia, et puis finalement j'ai viré ma cutie, et puis je me suis dit peut-être entrepreneur c'est bien.
Dès petite, tu avais quand même cette image de te dire, même sans être hyper précis sur je veux faire tel métier, mais en te disant j'aimerais quand même être plutôt libre et plutôt entrepreneur, quoi.
Ouais, tu as raison. Je pense que ce goût de la liberté, il transpirait chez mes parents. Pourtant, je les voyais travailler d'arrache-pied comme des dingues. C'était vraiment la folie. Et parfois faire des tâches vraiment ingrates aussi, à des âges inappropriés, on va dire. Mais en fait, je pense que j'avais ça dans le sang et que ça s'est révélé quelques années après.
Alors du coup, tu es bretonne,
ouais.
Donc tu as fait une bonne partie de ton éducation en Bretagne. À 20 ans, donc là on passe quelques années, à 20 ans tu décides de partir en voyage. Ça a été quoi ce projet? Et en fait, d'où est venue l'idée comme ça de partir en voyage à 20 ans? Il me semble que tu es partie en Australie,
ouais.
Donc c'était pas si commun que ça à l'époque. Enfin,
ouais.
À l'époque, ouais. C'était pas si longtemps.
Mais... c'est clair. Bah, déjà, tu vois, il y a eu un mini voyage d'abord qui a été... Donc moi, je suis originaire du côté de Vlaine, de Auray précisément, dans le Morbihan. Donc je suis vraiment bretonne pure blanche, même si bah, maintenant j'ai migré à Bordeaux depuis 10 ans. Que déjà j'ai fait un premier petit saut de puce, c'est-à-dire que j'ai quitté mon cocon familial breton, attention je vais me faire flageller, pour aller à Nantes. Donc voilà, c'est toujours un grand débat sur est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne.
La concurrence.
J'ai de la famille et des amis là-bas, donc du coup voilà, j'ai fait ce premier mini petit voyage, c'était ce petit saut de puce où bah, tu quittes ce cocon familial finalement. Pour faire 2 ans d'études, mes 2 premières années d'études à Nantes. Et en fait, c'est au cours de ces 2 premières années d'études à Nantes que j'ai rencontré ma meilleure amie, Lucie, que je salue si elle m'écoute du coup sur le podcast. Et du coup, avec Lucie, on a fait nos 2 années d'études collées serrées ensemble. On s'est tout de suite super bien entendu. On était bon, 2 grosses pipelettes hein, concrètement. Et puis alors, ça a été une très mauvaise idée de tomber l'une à côté de l'autre dès le premier jour en cours. Puisque bah, en fait, je pense que dès la première semaine, je crois que je sortais une carte du monde à Lulu. Je crois que j'ai souvenir de ça, d'une carte du monde que je lui sors et je lui dis franchement meuf, je tape ces 2 années d'études, j'obtiens mon diplôme et après je pars en Australie quoi. Et puis je pense qu'elle a dû prendre pour une folle en me disant ouais bon, 2 ans c'est quand même long, on en reparle. Et ben finalement on l'a fait en fait, on l'a vraiment fait. Et donc on a passé ces 2 années main dans la main, toutes les deux, on va dire, on est devenus très très amis. Et puis alors on a beaucoup de choses qui nous rapprochent, notamment visiblement notre physique. On est toutes les deux petites, on a toutes les deux des grands yeux bleus. Et en fait, les gens nous ont toujours pris pour des sœurs.
Pour les sœurs, ouais.
Et donc voilà, en effet, et ben écoute, c'est arrivé le premier grand voyage de ma vie puisque bah je refais je raccroche les wagons avec aussi mes parents, mais c'est vrai que nous on partait un petit peu en voyage. Il fermait une petite semaine ou deux l'été, mais c'est tout, hein. Les entrepreneurs prennent peu de vacances, malheureusement. Et donc, on partait un petit peu en vacances, hein, en Espagne. On a dû partir, voilà, au Maghreb avec mes parents, mais voilà, on n'a jamais pu faire de longs voyages vraiment exotiques, on va dire, et un petit peu loin de tout. Et donc, voilà, en gros, je sais pas pourquoi, mais il y a eu cette envie à 19 ans, du coup, de bouger loin, et d'aller voir ailleurs. Et donc, ça peut paraître un peu détonnant ou bizarre, mais tu vois, à l'époque, on disait, mais attends, Pauline, pourquoi vous partez en Australie? Enfin, bah, en fait, on veut apprendre l'anglais, on veut vivre une expérience qu'on vivra peut-être plus jamais dans notre vie. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais pour apprendre l'anglais, Pauline, tu peux aller à Londres, t'es pas obligée de partir à l'autre bout et faire 24 heures d'avion.
Le classique.
Voilà. Et en fait, tu dis, mais les gars, en fait, Londres, je peux y aller un week-end et c'est pas très écolo pour le coup, mais je peux y aller pour des vacances, en tout cas, un peu plus longues. L'Australie, partir une année comme ça, je le referai jamais dans ma vie, quoi. Et donc voilà.
Donc c'était un an que t'es parti.
Voilà, ouais.
Enfin, vous êtes parti à 2, 1 an.
10 mois, ou un petit peu, ouais, 10 mois environ. Et ça a été une sacrée expérience amicale, évidemment, humaine, pour Lucie comme pour moi. Et je crois que ça nous a définitivement forgé et on est toujours amis, hein, très longtemps après, donc plus de 10 ans, 12 ans après, notre amitié est intacte comme au premier jour.
Et vous êtes partie du coup dans le cadre d'un visa vacances-travail, c'est ça?
À l'époque, c'était ça, ouais. On a eu notre working holiday visa. Alors, tu sais qu'à l'époque, vachement avant-gardiste, en fait. Hein.
Bah oui.
Personne ne partait, très peu de personnes partaient comme ça, avec le sac à dos sur le dos, en 10 ans. Je pense que tu vois, ça s'est grave démocratisé. Je dirais une vieille, mais j'ai que 32 ans. J'ai même pas 32 ans, je vais avoir 32 ans en juillet. Donc, j'ai que 31 ans. On dirait une vieille, mais en vrai, 10 ans avant, c'était quelque chose qui était complètement un peu dément, tu vois. Après, on a rencontré quand même pas mal de voyageurs là-bas, hein, donc c'était quand même dans l'air du temps et tout. Je pense que c'était un peu le début des working holidays, donc les gens commençaient à sauter sur l'occasion. Et en effet, ouais, je suis partie avec ce working holiday là pendant 10 mois.
Mais t'as raison, j'ai l'impression que même en 3 ans, ça a énormément évolué. Alors après, c'est peut-être mon regard aussi sur la situation qui a changé. J'ai fait un premier voyage et après, je suis repartie assez tardivement, entre guillemets, puisque j'avais 27 ans. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de blocages autour de ça. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que la situation a quand même vachement évolué, que les gens s'autorisent plus, en tout cas, à partir comme ça, dans le cadre d'un visa vacances-travail, ou en tout cas s'autorise plus à partir voyager. Bon, après, c'est encore une fois peut-être le fait que mon regard est changé, mais j'ai l'impression que ça a quand même évolué assez rapidement. Donc en 10 ans, effectivement, ça
a très très évolué. Je pense que tu sais, c'est lié aussi avec le fait qu'il y ait des compagnies aériennes low cost qui font aussi maintenant des prix tellement faibles pour partir en Europe, déjà, ne serait-ce qu'en Europe, que les gens ont vite pris le pli de bouger facilement. Encore une fois, j'encouragerais pas les gens à partir trop souvent non plus sur des courtes distances, mais sur des longues distances, sur du working holiday comme ça, ou pour vivre des expériences de quelques mois. C'est quand même hyper cool. En tout cas, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit derrière qui est relative, hein, mais quand même très importante. En tout cas, je pense que moi, ce voyage en Australie à 20 ans m'a clairement a dessiné la femme que je suis à 32 ans aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me vieillir à 31, non? Voilà.
Presque.
Bah attends, ouais. J'ai un doute, je sais plus quel âge j'ai. Ouais, je vais avoir 32 ans.
Ouais. Une de mes questions, c'était qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Mais c'est une très belle phrase de dire qu'effectivement, ce premier voyage t'a aidé à définir la femme que tu es aujourd'hui. C'est très beau. Et du coup, suite à ce voyage, tu reviens du coup en France et là, tu as poursuivi tes études dans une grande école de com, donc à Bordeaux, pendant 3 ans. À ce moment-là, quand tu intègres cette école, c'était quoi ton plan, en fait? Et tu t'imaginais comment à la sortie de l'école?
Ouais, c'est pareil, c'était la première question, c'est chaud. Alors déjà, je vais te dire un truc, et je pense que ça, c'est une info que tu peux pas avoir, parce que je pense pas vraiment trop l'avoir dit, c'est qu'à la base, en fait, après l'Australie, on est rentré avec Lucie, et que je ne voulais pas forcément reprendre mes études. C'est pas que je voulais pas reprendre mes études, je me corrige. C'est que je voulais repartir en voyage. C'est une grosse différence. Et donc, mon plan, c'était de me rebarrer pendant un an en Amérique du Sud.
Très bon plan.
Évidemment, sans aucune thune, hein, puisque je suis rentrée d'Australie à sec. J'ai bossé tout le temps là-bas. J'ai fait du picking. Enfin, tu vois, t'imagines, j'ai bossé dans les restos, les bars, les machins. Enfin, on n'a pas arrêté, en fait, pour pouvoir survenir à nos besoins. Et quand je suis rentrée, mon plan, en fait, c'était de partir en Amérique du Sud. Et je vais te dire un truc, c'est un autre voyage à Londres, en fait, justement, où j'allais voir une autre de mes meilleures amies, Alison, qui m'a changé complètement le cours de ma vie. C'est-à-dire qu'à un arrêt de bus à l'aéroport, j'ai rencontré un type et il m'a posé une question pour savoir quel bus il fallait prendre pour aller dans le centre de Londres. J'avais jamais vécu à Londres. Finalement, on a fait tout le chemin ensemble à tchatcher et il était étudiant à l'INSEC Bordeaux et il venait faire 4 mois à l'université de Londres pour ses études dans le cadre de l'INSEC. Le mec me parle, me chatte, il me raconte son truc et c'était hyper cool en fait. Il le vendait tellement bien et du coup il me dit mais tu sais que tu peux partir en Amérique du Sud mais tout en continuant ton cursus scolaire, en fait, ce serait trop bête de t'arrêter là, etc. Machin. Et c'est ce mec qui m'a mis la puce à l'oreille.
C'est énorme.
Évidemment, mes parents n'avaient pas envie que je reparte. Déjà, ils voyaient que j'étais complètement à sec. Je suis partie à Londres, ils étaient hyper énervés contre moi en me disant « Mais Pauline, t'as pas d'argent, d'où tu pars à Londres ?» Et voilà, et je pense que ce retour brutal après 10 mois de road trip m'a donné envie de partir à Londres pour reprendre un peu l'air, en fait. Et puis ce gars, clairement, je sais plus comment il s'appelle. Je saurais même pas le retrouver physiquement. Je sais plus à quoi il ressemble. Mais je me souviens que ce gars était donc en deuxième année à l'INTEC et que on a tchatché et que, en fait, finalement, grâce à cette rencontre, du coup, j'ai contacté mes parents. Je leur ai dit, écoute, j'ai rencontré un gars, là, qui me parle de son école. Ça a l'air vraiment super, hyper taillé pour moi. Et puis alors du coup j'ai passé le concours avec le peu d'argent que j'avais de côté et puis en fait je l'ai eu et j'ai tracé. Et par contre clairement alors déjà j'avais un bête de niveau d'anglais tu sais pendant le concours oral et tout.
Ah bah oui, bien sûr, comparé aux autres.
Donc ça c'était super et puis c'est une expérience de fou. Tu vois, le jury était hyper impressionné. Enfin à ce moment-là, je leur dis je reviens d'un an en Australie. Et en fait, ma seule condition sine qua non pour intégrer votre école, c'est que je veux partir en Amérique du Sud pendant mon cursus. Sinon je viens pas en fait. La fille exigeante. Et voilà. Et c'est de là qu'ensuite je suis partie en Amérique du Sud. Pour répondre à ta question d'avant, franchement, en intégrant l'INSEEC, mon seul objectif c'était de me barrer en Amérique du Sud et faire une mission humanitaire. C'était déjà un énorme objectif. Je savais par contre que j'avais envie de travailler dans la communication, que c'était déjà clairement dans mes veines. Donc, je me suis naturellement dirigée très vite vers un master en communication et marketing. Je saurais pas te dire comment je me voyais à la sortie. Par contre, je pense que je me serais pas du tout imaginée entrepreneuse comme je le suis aujourd'hui, etc. Foncièrement, au fond de moi, je savais que je voulais travailler dans la communication et je savais juste que j'avais envie de partir en Amérique du Sud. Et c'était déjà, voilà, mes deux objectifs, c'était finalement d'avoir ce master et de pouvoir voyager dans le cadre de mes études au maximum.
Tu pars dans le cadre de quoi ? C'était un stage ? C'était une césure ? Et combien de temps ? Parce que tu parlais tout à l'heure de mission humanitaire. Est-ce que tu as pu faire ça dans le cadre de l'école ?
Exactement. J'ai fait ça dans le cadre de l'école, en fait. Donc, c'est-à-dire que, justement, tu avais deux écoles. Bah, tu avais les étudiants qui partaient en stage dans la finance à Malte. Tu vois. Et puis, bah, tu avais les gens chelous comme moi, un peu, qui partaient en mission humanitaire au Pérou. Donc, je sais pas si ça a été un très bon choix. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Une leçon de vie, un boomerang dans ta gueule, on va dire, pendant plus de 3 mois et demi, 4 mois. Je suis pas encore partie solo. Un jour, je le ferai, ça. Donc, je suis pas partie solo parce que là, je suis partie avec mon copain Baudouin, qui était aussi à l'INSEEC avec moi. On a vécu des super mois, du coup, dans un orphelinat. Donc, on est parti à la Casa Hogar, Los Gorillones.
Ah ouais.
J'ai perdu un peu l'accent.
Waouh.
Mais, on était dans les montagnes péruviennes, donc à Ayacucho. C'était assez dangereux à l'époque. Je me souviens d'ailleurs que mon meilleur pote en France, Fab, voulait pas. Il avait regardé sur le site du ministère des Affaires étrangères en disant mais c'est mort, tu pars pas là-bas en fait. Genre je vais montrer ça à tes parents. C'est une très mauvaise idée.
Ils vont t'interdire de partir.
Tu sais, à l'époque c'était comment les territoires un peu rouges sur la carte là du ministère.
Ah oui. Grillé comme ça, c'est pas bon ça.
Dangereux, il y a des cartels et machin. Et ben, je suis quand même partie.
Toi, tu t'es dit, je m'en fous, j'y vais.
Et deuxième claque, quoi. C'est-à-dire que l'Australie, ça a été très formateur parce que mes parents ne m'ont pas du tout aidée financièrement. Hein. Avec Lucie, on a travaillé aussi 4 mois avant de pouvoir payer le Pérou. Ça a été une expérience humaine incroyable. On a été donc aidée dans un orphelinat qui avait été lancé par une famille belge. C'était trash, quoi. Hein. C'était l'orphelinat, c'était du bébé déposé dans la poubelle devant. C'était des enfants handicapés. Donc, moi, j'ai travaillé avec des enfants handicapés 14, je crois pour être exact, si je me souviens bien. Donc, c'était vraiment quelque chose de très difficile. J'avais jamais été confrontée à ça. J'avais jamais, moi, en plus, je déteste le milieu médical. J'ai perdu sang. J'ai jamais donné dans le social. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de compétences là-dedans, en fait. Finalement, j'ai jamais développé de compétences.
Et pourquoi t'as été attirée par ça, du coup?
Je pense que j'ai dû rencontrer des gens en Australie qui avaient fait des missions humanitaires. Mais je pense que l'Australie m'a tellement ouvert d'esprit, m'a fait rencontrer tellement de gens de tellement de nationalités. J'ai été tout de suite attirée par l'Amérique du Sud. D'ailleurs, je le suis toujours beaucoup. J'aimerais beaucoup repartir en Amérique du Sud. J'ai été attirée par cette mission humanitaire, par le projet en tant que tel que j'ai trouvé par moi-même, que j'ai trouvé super. Hein, cette famille belge qui s'installe à Ayacucho au milieu de nulle part. C'était vraiment la misère. On dormait dans une genre de maison de bénévoles. Et donc, on était une quinzaine à venir partout dans le monde.
C'est assez ouf de se dire que c'était dans le cadre d'une césure, en fait, parce que tu racontes ce voyage. Moi, je me dis, t'es partie comme ça, en baroudeuse, tu vois. Et là, et là c'était quand même encadré, entre guillemets, par l'école.
J'ai pu le faire passer en stage.
Ouf,
on a eu des missions de communication aussi. Donc, justement, en passant à la radio, à la télé, en évangélisant, en donnant de la visibilité à cette association. Et en fait, du coup, en fait, ça a été une super expérience professionnel parce que ça a été très multitâche. Donc c'était à la fois la partie vraiment immergée de l'iceberg avec de l'aide pure des enfants qui sont orphelins, c'était des actions de communication diverses et variées, c'était en plus en espagnol, et c'était de la cuisine. Et en fait, quels moyens peut-on mettre en œuvre pour rapporter de l'argent coûte que coûte à cette association? Mais voilà, j'ai ces petits souvenirs du Pérou qui sont fous. Et après, on a fait un mois de voyage dans le sud du Pérou et puis en Bolivie, extraordinaire aussi. Donc on a réussi à mêler donc 3 mois sur place à Ayacucho et 1 mois de retrait.
Génial. Et du coup, à ton retour donc de cette césure, de ces 4 mois en Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es toujours dans le cursus grande école.
Une claque. Déjà,
bah oui.
Retour juste, on sort de l'avion, on a chopé un tram, on savait même plus comment appuyer sur le bouton automatique, c'est le délire.
Génial.
Je te jure. Je me souviens très très bien. On est rentré à l'INSEC quelques jours après. À peine le temps de, je crois, à peine le temps de se reposer, on reprenait le lendemain. Un truc de fou. On est revenu le dernier jour. Et en fait, je me souviens d'un truc, c'est qu'on avait grave maigri. Et qu'en fait, on s'en, enfin, nous, on l'avait pas du tout remarqué. Et moi, j'avais un peu maigri, mais Baudouin, lui, c'était vraiment flippant. Et en gros, on est rentré. Les gens nous ont dit, vous avez pas bouffé. Donc, je me souviens des mecs qui ont fait la teuf pendant 4 mois à Mal, qui se sont mis des soirées, des grosses boîtes de night et tout. Et nous, on était
rien à voir. Tard.
Et donc, au retour, et ben, comme t'as dit, en fait, Anastasia, j'ai repris mon cursus scolaire, quoi. La grosse claque. Je reviens dans une école de commerce avec tous les mecs, les nanas, genre là, tu fais en France.
Rien à voir, quoi.
Un délire. Pas du tout la même planète. Grosse claque. Donc, en fait, tu pars, tu te prends une claque, tu reviens, tu te prends une claque, bref. Et claque tout le temps. Et puis, retour, bam, deuxième année.
Et du coup, en général, quand on sort d'une école de commerce, alors qu'on a fait 3 ans d'une école, il y a un peu des parcours types. T'en parles d'ailleurs dans d'autres podcasts. Mais en général, c'est voilà, choisir une grosse boîte, aller sur Paris pour travailler à la Défense. C'est ce genre de choses. Et toi, en fait, c'est pas du tout ce que t'as choisi.
C'est vrai.
Continue. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bizarrement, les voyages n'ont pas inspiré à revoyager derrière. Et là, on me donne mon diplôme, cadeau. En fait, du coup, je passe les concours de fin d'année. Et là, je me suis retrouvée, en effet, sur le marché du travail. Et comme tu dis, comme je dis souvent, d'ailleurs, quand je me présente, bah, là, on te demande de choisir la boîte du CAC 40 que tu veux intégrer, puisque c'est la voie vers laquelle on te pousse.
On te forme pour ça, un peu, ouais.
Et finalement, j'ai pas choisi cette voie-là du tout. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressée. En tout cas, de travailler au sein d'un grand groupe, hein, jusqu'alors, après, je dis pas qu'un jour ça n'arrivera pas. Il faut jamais dire jamais. Néanmoins, à ma sortie de l'INSEC, ça c'était pas ce qui m'animait du tout. C'était pas ce que je recherchais et je crois que j'ai jamais postulé d'ailleurs à une annonce pour un grand groupe, pour te dire. Et donc voilà. Et donc du coup, je me souviens hein, que j'ai terminé voilà avec brio mes études, super bonne moyenne, trop bien machin. Et puis bah là, en fait, je me retrouve confrontée à un problème. Je pense qu'il arrive à maintenant, peut-être de plus en plus de gens, parce qu'on ose dire que quête de sens, est-ce que j'ai vraiment envie d'être enfermée dans un bureau avec des N+15 pour
exact.
Faire relire mes mails à 25 personnes. Tu vois, j'ai
tellement.
Je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Par contre, quand même, bosser dans des agences bordelaises, ça m'a donné le goût du local. Et moi, j'adore ma ville, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'y suis depuis 10 ans. Et à ce moment-là, ça fait quelques années que j'y suis, et je sens que j'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à donner à cette ville. Et donc, à l'époque, je me suis quand même, au cours de mes stages, intéressée énormément à tout ce qui était économie circulaire, économie collaborative, et c'est de là qu'en fait était partie toute mon histoire.
Et tu t'es lancée, il me semble, directement en freelance, en fait.
En fait, c'est exactement ça. C'est que je me suis intéressée à ça. J'ai fait un mémoire de recherche appliquée là-dedans. J'ai développé un réseau là-dedans, du coup, forcément. Et très vite, je me suis lancée en freelance. Donc, du coup, je faisais de la communication. J'accompagnais des boîtes, des startups. Donc, j'étais plutôt un profil chargé, responsable de communication. C'est là que démarre mon aventure un peu entrepreneuriale. Alors en freelance, c'est un peu la galère au début. Hein. Et puis, donc je connais quand même les mois difficiles. Et puis, de toute façon, de mon mémoire de recherche est née aussi une relation très étroite avec le collectif WeShare, qui est un collectif qui prenait beaucoup l'économie collaborative. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu has-been, mais en tout cas, maintenant, ils sont plutôt sur les sujets du futur du travail. Et donc, c'est un collectif qui m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. J'ai rencontré des gens de toute nationalité. Et donc, on a développé ici une communauté locale à Bordeaux. Ça, je le faisais à titre bénévole. En plus, j'étais free. Et en plus de ça, je faisais des missions en free avec WeShare.
Et à l'époque, quand on sort d'école, enfin, encore maintenant, j'imagine, peut-être un peu moins, c'est pas du tout courant, en fait, de se lancer directement en étant freelance, quoi. Enfin, même aujourd'hui, quand tu veux te lancer en tant que freelance, t'as plein de questions, t'as beaucoup de peur. Comment est-ce que t'as fait pour oser, en fait? Et si t'avais un conseil à donner à, je sais pas, une nana qui veut justement se lancer en freelance, mais qui, comme tu avais, il me semble, t'avais la pression un peu des gens autour de toi, etc., de te dire, ben, faudrait peut-être plutôt prendre un CDI, c'est peut-être plus rassurant. Comment est-ce que toi, t'as fait pour justement oser?
Alors bah moi déjà j'ai eu un truc qui est pas le cas de tout le monde et donc j'ai beaucoup de chance c'est que j'ai des, comme je te disais des parents entrepreneurs donc ils m'ont pas forcément suivi dans mes choix parce qu'en fait eux étaient inquiets et puis ils se disaient bah oui voilà t'as fait 5 ans d'études là c'est pour galérer maintenant voilà est-ce que t'es sûre de toi tu sais malgré tout tu vois même si j'étais pas entrepreneur et très ouvert d'esprit c'était quand même bah t'es une femme tu vois si un jour tu veux des enfants c'est quand même plus enfin tu vois c'est tout bête. Et à ce moment-là, on en est encore un peu à ce type de réflexion. T'as une pression sociale que je ne mettrai pas du tout sur le dos de mes parents, parce qu'ils ne m'ont jamais mise, jamais. Par contre, une pression sociale, même invisible, mais voilà,
c'est sociétale, carrément.
Des anciens élèves de ton école qui prennent de tes nouvelles. Et t'es encore à Bordeaux, t'es encore étudiante, t'es entrepreneuse. Donc du coup, t'es là, bah ouais. Et t'es dans un collectif indépendant, associatif. Tu vois, c'est pas le même milieu, quoi. Là, on te demande d'aller vers un grand groupe.
De gagner beaucoup d'argent aussi.
Et du coup, c'est pas ce qui me stimule à ce moment-là et toujours pas aujourd'hui. Le conseil que je donnerais, c'est au-delà du fait que bah, moi, j'ai eu de la chance, en tout cas, d'être bien entourée. Donc, que globalement, dans ma famille, on ne me juge pas. C'est de s'écouter et deux, de rien attendre de personne. C'est-à-dire que aide-toi, le ciel t'aidera. Alors ça, c'est une phrase dure que j'ai soutenue pendant mon enfance, que mon père me disait tout le temps. Et aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
tu as plein d'expressions, donc.
À fond, c'est mon dada. En fait, j'ai vachement fait, j'ai pas attendu les autres. Et donc, j'ai appris à fédérer une communauté. Et aujourd'hui, ce sont des mots qui sont sur toutes les bouches. Le brand content, création de contenu, créer des communautés, ouais, trop cool, c'est dans l'air du temps. Pareil, à l'époque, il y a quelques années, j'étais aux prémices, j'étais modératrice d'un groupe Facebook, on me disait, donc le groupe Facebook de Wichard Bordeaux, on me disait, je suis toujours d'ailleurs, et on me disait, mais qu'est-ce que tu fous, enfin, c'est quoi ce truc, pourquoi tu fais ça, en fait? Qu'est-ce que ça te rapporte? Ah, mais on te paye pas pour faire ça. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Et bah, de fil en aiguille, évidemment, mon réseau au niveau local s'est hyper développé. Donc ça a été extraordinaire. Et puis j'ai rencontré des gens super, j'ai eu des riches rencontres, des riches expériences. Et ça a été 4 années au top de ma vie. Évidemment, t'imagines bien que j'ai quand même été happée par le salariat, par cette pression sociale. Quelques mois après, évidemment, bah, je signe quand même un petit CDI. Vite fait, quoi.
Pour se rassurer un petit peu,
une belle start-up là, qu'il y avait à Bordeaux. J'étais à Darwin. Donc, j'étais dans mon environnement, dans mon écosystème. Et puis, finalement, bah, ça a duré 10 mois. J'y trouvais pas mon compte. Et en fait, le rythme était hyper dur parce que j'étais slasheuse. J'étais salariée. En plus, j'étais Wisher. Et en plus de ça, j'avais des missions en free qui continuaient pour des clients. Laisse tomber. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui un slasher, ce qui n'avait pas de nom des années, j'ai quand même bien vécu pendant un peu moins d'un an.
Et du coup, tu vas arrêter ce boulot et tu vas repartir en voyage, tiens, dis donc. Donc là, tu vas repartir 3 mois.
Insupportable. Insupportable. Et là, on me dit, là, franchement, Pauline, t'es incroyable.
Bon, bah, moi, ça me correspond bien, moi, j'adore. Mais du coup, est-ce que pour toi, est-ce que tu vois le voyage un peu comme une manière d'y voir un peu plus clair quand on est perdu? Ou alors, qu'est-ce que ça t'apporte de manière générale, le voyage? Pourquoi est-ce que t'es reparti à ce moment-là, en fait?
À ce moment-là, donc mon conjoint, avec qui je suis depuis du coup quasiment 10 ans, enfin depuis mon école en fait, que j'ai rencontré Maxime à l'INSEEC. Mon conjoint du coup avait fait 6 ans dans une agence événementielle à Bordeaux et il était vraiment rincé. Donc lui pour le coup il avait perdu 10 kilos mais il n'était pas allé au Pérou quoi tu vois. Donc ça a été voilà plusieurs années très intenses pour lui et il est arrivé au bout du tunnel à un moment donné et donc il a été question en effet de partir en voyage pour profiter de la vie en fait. Donc ça a été tu vois encore une quatrième et une autre forme de voyage. Donc il y a eu le voyage avec les meilleurs potes, le voyage avec le meilleur poteau. Il y a eu le voyage un peu solo dans le cadre des études à l'université. Et là, il y a le voyage avec l'amoureux. Et donc là, on décide de partir. Donc par contre, on cadre le truc. C'est-à-dire qu'on part. On a eu tous les deux notre rupture conventionnelle. Mais par contre, on part pour une durée définie. C'est-à-dire que on part 3 mois. On fait 1 mois dans chaque pays. Donc Thaïlande, Birmanie, Philippines. Et donc, on vit notre truc à fond. On ne télétravaille pas, on ne fait pas de nomadisme, en tout cas, très peu. On clôture tous nos dossiers et on part en voyage de kiff. C'est ce qu'on a fait. Putain, je sais pas si je peux te raconter cette anecdote quand même. Ah, putain, après là, ça va être
la pépite. J'ai envie de la savoir quand même là.
Mais il faudra pas la mettre en mode citation. Mais j'ai dû quand même me taper un petit aller-retour à cause de Pôle emploi. Birmanie, Bordeaux. Voilà.
Ça a été un peu chaud. Tu as été convoqué à l'entretien de.
Complètement fou ce truc. Mais bref, je te passe les détails. Quoi qu'il en soit, on est parti 3 mois avec pour moi un petit aller-retour en plein milieu, dans le froid et la grisaille. Et j'ai pu retrouver ensuite les plages de Thaïlande quelques semaines après.
Du coup, pendant ces 3 mois, on pourrait se dire, ok, donc là c'est bon, tu t'es dit, bon j'arrête ce CDI, ça marche pas pour moi. Et du coup, quand tu reviens, tu pourrais te mettre à fond dans le freelance, mais c'est pas ce qui va se passer. Tu vas re-signer pour un second CDI.
Je re-signe. C'est complètement con. Hein. Je re-signe. Je re-signe par amitié. Je re-signe un contrat. Ça a duré que 6 mois. Puisque là, du coup, j'étais aux antipodes complètement de ce que j'étais. J'étais un petit oiseau en cage. Donc voilà, j'étais vraiment trop éloignée de l'entrepreneuriat, en fait. De l'entrepreneuriat et de ce que j'étais foncièrement. Et en fait, c'est quand même un gros choc de revenir de 3 mois de voyage et de se retrouver dans un bureau tous les jours à 8h30 du matin, avoir les mêmes personnes. Ça ne m'a jamais convenu, ça ne m'a jamais plu. Et donc, il m'a fallu ces 6 derniers mois pour me rendre compte que c'était pas du tout fait pour moi. Après 2 tests et donc 16 mois de salariat, il était temps de prendre une décision formelle.
Et donc, c'est là où tu vas finalement donc décider de te lancer dans ta première vraie aventure entrepreneuriale avec la création donc du blog Vélo Boulot Bordeaux, donc où tu références les lieux de travail à Bordeaux. Comment est né ce projet en fait? Comment est-ce que tu t'es dit je vais me lancer là-dedans? Et ça signifiait quoi pour toi
projet? Chez WeShare, je m'intéressais beaucoup à la question des tiers-lieux sur la partie donc futur du travail, etc. Donc c'était un sujet qui me passionnait déjà quand j'étais chez WeShare. Et puis à ce moment-là, je me dis, y a plein de tiers-lieux du coup à Bordeaux. Comment choisir son tiers-lieu quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, etc. Tu vois. Et en fait, donc ça a été finalement le premier média d'exploration comme ça de coworking et d'espace de travail plus largement en France. Donc je suis super contente. Donc voilà. Après j'ai eu 2 options. Hein, trouver un modèle économique pour développer ce Vélo Boulot Bordeaux, ce super blog. J'ai adoré, pareil. Hein. J'ai continué à développer mon réseau, j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai visité tous les lieux possibles et inimaginables de Bordeaux. Ça a été 2 années extraordinaires. En fait, voilà, ça a été encore une expérience de communauté. Donc, et j'en ai beaucoup finalement à mon actif quand je fais le bilan. Et tu sais que d'ailleurs, j'ai en ce moment un petit truc en tête et je tease pas parce que pour l'instant c'est pas fait, mais j'ai pas dit mon dernier mot sur les tiers-lieux. C'est un sujet qui me passionne encore. Par contre, aujourd'hui, après 2 années d'exploration et justement de rédaction, ce qui peut être parfois les blogueurs, on va dire, les gens qui ont des blogs le diront mieux que moi, parce que moi, pour moi, c'était plutôt un média qu'un blog en tant que tel, puisque j'ai jamais fait de blogging, j'ai jamais vécu de ce blog. C'est un média qui m'a permis de faire de la prospection douce, de rencontrer beaucoup de gens et d'avoir beaucoup de missions grâce à ça, et de démarrer d'ailleurs mon activité avec le collectif derrière.
Donc, tu monétisais pas ce blog, mais justement, ça te permettait d'avoir des clients en freelance, en fait.
Ouais, grave.
C'est un petit peu ça. C'était ta vitrine, quoi.
T'as tout compris. Ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et puis, ça m'a permis de montrer ce que je savais faire à ce moment-là. Donc, je sais monter un site web, je sais écrire, je sais fédérer une communauté, prendre des photos, gérer mes réseaux sociaux. Donc, voilà, ça montre un peu que je suis une personne, en tout cas, qui travaille dans la communication.
Et il y a 2 ans, donc, tu vas fonder le collectif COSM. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le principe donc, de ce collectif et d'un collectif en général? Et puis, du coup, comment est-ce qu'est né ce nouveau projet?
Ouais, et ben, du coup, je vais commencer par ta dernière question. Ce projet, il est né, du coup, d'une autre communauté, tu vas te dire, mais cette fille est folle. Et du coup, il y a eu Vélo Boulot Bordeaux. En simultané, en même temps de Vélo Boulot Bordeaux, il y a eu Freelance à Bordeaux, donc un groupe Facebook qui rassemble plus de 1700, maintenant 1800 peut-être Freelance à Bordeaux. Et donc, c'est la somme un petit peu de Vélo Boulot Bordeaux et de Freelance à Bordeaux. Et puis, la rencontre, entre guillemets, avec un client qui m'a fait dire qu'aujourd'hui, il fallait que les freelances se rassemblent pour être plus forts, que malheureusement, la protection des travailleurs indépendants était certes très mauvaise, clairement, ça allait devenir un sujet sur le devant de la scène dans les mois qui venaient, et j'ai pas eu tort. Et je pense qu'avec aujourd'hui la crise sanitaire qu'on vit, les freelances sont de nouveau sur le devant de la scène, les freelances sont entendus et les freelances sont mis en avant. Du coup, pour répondre à ta question, Cosme, du coup, je l'ai créé donc en mars 2018. J'ai créé avec plusieurs autres freelances. On est le premier collectif de freelance structuré en France. Voilà, et donc ça rassemble aujourd'hui plus d'une dizaine de personnes, parfois 15, jamais plus de 20. Mais on est tous experts dans notre domaine. Et donc, l'idée, c'est de se rassembler pour être plus fort, plus puissant, pour répondre à des appels d'offres d'envergure aussi, et d'accompagner des clients ici au niveau local, régional, voire au niveau national. Donc, l'idée, c'était d'apporter cette troisième voie, donc une alternative à l'agence d'un côté et une alternative à la plateforme numérique de mise en relation. Donc, l'idée, c'était d'inventer cette troisième voie, de la dessiner, d'en dessiner les contours à plusieurs, collectivement. Et donc, on a créé le collectif Cosme dans ce sens.
Tu parlais du futur du travail, et effectivement, donc c'est une de mes questions. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se tournent vers le travail en indépendant, notamment en freelance, donc bien sûr parce que ça permet plus de liberté, d'autonomie, ça répond à une quête de sens, mais il y a aussi des risques. Pour autant, on est quand même de plus en plus nombreux à faire ce choix de ne pas aller vers la sécurité. Pourquoi est-ce que pour toi, notre génération, donc de manière globale, la société, est de plus en plus attirée vers ces métiers d'indépendants et moins vers quelque chose de plus sécurisant? Est-ce que aussi c'est un biais, parce que peut-être que c'est pas du tout le cas, c'est juste un biais de l'esprit et que c'est pas le cas. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Alors tu vois, je l'ai dit dans mon dernier article 5 piliers d'un collectif de freelance, je disais tout le monde n'est pas fait pour être freelance, donc je pense qu'il va vite y avoir un revers de la médaille à ce niveau-là, parce que les gens vont tous se ruer pour être indépendants, c'est très bien, encore faut-il pouvoir l'assumer. Tout le monde n'est pas fait pour l'être, et c'est pas grave. Il faut vite se rendre compte de si on est fait pour ça ou pas pour ça, même si on peut monter en compétences, évidemment. On peut pas tout apprendre d'un coup. Voilà, il faut pas se ruer vers le freelancing comme une fuite ou une fuite du salariat, ou que ce serait pas une bonne idée. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que le freelance, il doit être bon partout. C'est ce que j'explique aussi régulièrement. Il doit être, au-delà d'être expert dans son domaine, il doit être comptable, limite banquier. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail que de monter son entreprise et même sa micro-entreprise. Je dirais que jusqu'alors, il y avait beaucoup de freelance, mais c'était quand même un phénomène marginal. Par la même occasion, il y a un énorme marché sur le freelancing qui se développe. Clairement, aujourd'hui, les freelances sont un marché. C'est assez hallucinant. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, se lancer en freelance, comme tu dis, c'est risqué. Donc, pourquoi les salariés peut-être se lancent en freelance? Bah parce que du coup, comme tu disais, hein, il y a une grosse quête de sens, c'est le leitmotiv de tout le monde, et cette crise sanitaire ne va faire qu'accentuer cela.
Est-ce que justement tu crois que c'est pour ça que beaucoup de voyageurs, après, en revenant de voyage, ont du mal à retourner justement dans ce... Alors, je vais pas diaboliser le salariat, mais un petit peu le salariat au sens où tu as des horaires fixes, tu es toujours au même endroit, etc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à retourner là-dedans, ouais. Parce que tu as goûté justement à la liberté.
Je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Je suis d'accord avec toi. Je pense, oui, que les voyages transforment les gens, que le fait de voir partir si facilement, si librement, aussi loin, sans contrainte. C'est ça. Je dirais, tu sais, pour clôturer là, que au final, encore faut-il réussir à prendre des vacances quand on est entrepreneur ou freelance. C'est pas toujours évident de stopper son activité non plus. Donc, être freelance, oui, mais quel freelance?
On arrive sur, du coup, la dernière question, qui est une question récurrente du podcast, puisque donc le podcast s'appelle De Vraie Vie, et l'objectif de ce podcast, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas qu'une seule vraie vie, entre guillemets. Pour toi, ça t'évoque quoi si je te dis la vraie vie?
La vraie vie, pour moi, c'est mon mec, mon bébé, ma famille, mes potes, tout le monde en bonne santé, à manger des galettes saucisses et à boire du cidre sur la plage.
Des crêpes sur la plage
en Bretagne. La vraie vie, c'est être heureux personnellement, fonder une famille ou pas, parce que il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça, faire de beaux voyages et surtout trouver un bel équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Pour ma part, l'un et l'autre ne peuvent pas être décorrélés. Je serai pas heureuse dans mon pro si je suis malheureuse en perso, et je serai pas heureuse en perso si je suis malheureuse en pro.
Super. Merci beaucoup, Pauline.
Merci à toi, Natalia. Merci pour l'invitation.